Interview.
2 jours.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr avec Claire. Salut.
Salut Baptiste.
On va parler ensemble, et ça fait un moment que je voulais qu'on en parle, parce que c'est pas tout frais, de cette association que tu as co-montée, ou en tout cas tu nous présenteras tout ça, Women Rock in Pamirs, l'idée d'aller former là-bas les femmes à être accompagnatrices en montagne. Mais alors tout de suite, Claire, tu es accompagnatrice en montagne, toi-même.
Oui, je suis accompagnatrice en montagne. Du coup, j'ai commencé à encadrer la randonnée en 2012. Et j'ai passé le brevet d'État en 2015, j'ai eu le diplôme.
On peut encadrer sans avoir le diplôme ?
Non, j'avais un BPJEPS randonnée avant. Pour ça que j'avais commencé avant.
Donc c'est un parcours, quoi.
C'est un parcours, ouais.
Pourquoi la montagne ? Pourquoi la marche ?
Parce que ça me fait du bien et que je ne me verrais pas faire autre chose, que ça me nourrit au quotidien, j'adore l'idée d'en avoir fait mon métier et ça, c'est génial d'être dehors, de marcher, d'emmener les gens dans des grandes immensités. Voilà, je ne pourrais pas rester enfermée tout le temps.
Est-ce que ça correspond à quelque chose de ton enfance ou au contraire, tu étais dans un milieu qui n'était pas du tout ouvert ?
C'est plutôt au contraire, ouais.
Ah ouais.
J'ai grandi en ville, à Marseille, et on faisait pas trop de montagne dans la famille.
Donc même pas initié par les parents, pas.
Non, c'est plutôt venu par des découvertes du Kera quand j'étais pré-ado, ado. J'allais faire des colonies là-bas, et du coup j'ai découvert la montagne là-bas. Et puis bon, on allait faire du ski aussi quand même avec les parents. Il y avait aussi d'autres approches de la montagne, mais... Voilà, c'est plutôt ado et jeune adulte que je me suis mise à la montagne.
On te connaît aussi pour travailler avec Vercors Escapades dans le coin.
Ouais.
Voilà, sur les randoannes aussi.
Sur les randoannes, sur les traversées Vercors, sur les séjours yoga et randonnée. Voilà, sur différentes thématiques.
Oui, les DIWA sur un plateau, on t'y voit souvent, par exemple.
Oui, DIWA sur un plateau avec l'association des accompagnateurs en montagne du DIWA et la Buenaventure.
Bon, alors c'est quoi cette histoire de Women Rock in Pamirs ? D'où vient l'idée ?
Donc l'idée est née en 2015 de ma collègue Christine Auriol qui vit à Grenoble, qui a travaillé comme consultante dans l'humanitaire sur des projets agricoles et qui a vécu au Tadjikistan pendant plusieurs années. Et donc en 2015, elle faisait des repérages parce qu'elle co-écrivait un topo, un guide de trek au Tadjikistan. Et elle a rencontré des jeunes femmes qui sont parties faire de la montagne avec elle parce qu'elle cherchait des partenaires pour aller en montagne. Donc elle s'est présentée à l'office de tourisme de Khorog, la capitale du Pamir. Et elle a cherché des partenaires de montagne. Et là, il y a des jeunes femmes donc, qui travaillaient à l'office de tourisme et qui était en même temps étudiante en tourisme, donc des Pamiris, Tadjik, du Tadjikistan, qui l'ont rejoint pour aller faire des treks avec elle.
Mais pas dans l'idée, elle voulait avoir des partenaires de rando, quoi.
Voilà, à ce moment-là, c'était ça,
avoir des partenaires. Comme on pourrait entendre des Sherpas, ou c'était pas du tout pour...
Ah non, c'était pas pour lui porter ses affaires, elle les porte très bien toute seule.
Bah
non,
oui,
non,
bah,
non.
Voilà.
Non, là, l'idée, c'était d'avoir des gens pour pas partir toute seule en montagne, parce qu'elle partait sur des itinéraires... nouveau, quoi, qui n'était pas connu justement dans l'idée de faire ce livre. Enfin voilà, juste la base de ne pas partir tout seul dans des montagnes en haute altitude. Et donc elle voulait. Elle aurait pu chercher sur le Routard ou je ne sais pas, mais elle s'est présentée là-bas et donc c'est ces jeunes femmes Pamiris qui ont répondu à l'appel. Et à l'issue de cet été passé à parcourir les montagnes ensemble, en fait, le directeur de l'office de tourisme où travaillaient donc les jeunes femmes a dit à Christine « Ce serait bien que tu viennes les former à faire, en plus de guide touristique, à faire guide en montagne. » Et donc, Christine a pris la proposition au pied de la lettre.
Elle est guide, elle ?
Elle n'est pas guide. Enfin, elle n'est pas guide de formation. Après, elle a une grande expérience de la montagne, de l'alpinisme. Et en fait, donc, elle est plutôt spécialisée dans les projets de développement. C'est pour ça qu'en fait, on s'est rencontrés. Elle cherchait dans son entourage de retour en France une accompagnatrice en montagne pour l'accompagner sur le projet, pour pouvoir voilà, monter une formation et apporter la compétence professionnelle sur le projet.
Et c'est comme ça que tu rentres dans le jeu.
C'est comme ça que je rentre dans le jeu. Du coup, je ne connaissais pas Christine. C'est par un hasard, par un collègue en commun que j'ai reçu un jour ce message qui me dit « Est-ce que ça te dit d'aller au Tadjikistan former des femmes à faire accompagnatrice en montagne ?» Alors, papier, j'ai quand même sorti mon téléphone pour regarder où était le Tadjikistan, parce que je dois reconnaître, je ne savais pas où c'était. Je voyais que c'était à peu près au milieu de l'Asie, quoi, mais pas tellement plus. Donc en effet, c'est un tout petit pays qui se situe au sud du Kyrgyzstan, au nord de l'Afghanistan, et puis qui est frontalier aussi avec la Chine et avec l'Ouzbékistan. Donc on a monté le projet au départ toutes les deux, et avec une autre collègue, Audrey Janin, qui travaille aussi dans le développement et qui vit au Tadjikistan depuis des années. Donc voilà, on a lancé les choses comme ça.
Il y a une association entre un projet à développer, tu as cité des partenaires qui étaient soit dans le développement, soit dans l'humanitaire, et puis toute cette partie formation, on va en parler ensuite puisque c'est ta partie, mais au départ, il faut s'appuyer sur un certain nombre de, je sais pas moi, de politiques locaux, il y a des financements en jeu, il y a une aide du Tadjikistan ?
Alors, il n'y a pas d'aide à proprement parler du Tadjikistan, du gouvernement tadjik. Là, nous, on a fonctionné depuis l'année dernière avec la Fondation Insolite Bâtisseur qui nous a donné de l'argent, avec le Fonds Mondial pour l'Environnement qui aussi a donné une bonne subvention. Et les premières années, on a fonctionné grâce à des dons. Donc, on a fait des crowdfunding et on a récolté du matériel de seconde main pour pouvoir équiper, en fait, partir et pouvoir donner des chaussures, des sacs à dos, des doudounes pour partir dans des bonnes conditions en montagne avec les jeunes femmes. Et voilà, donc là, cette année, on continue à essayer de lever des fonds et c'est pas évident, mais parce que du coup, l'association, officiellement, on a posé des statuts uniquement en début d'année 2018. Avant ça, c'était, ça commençait à se lancer, quoi. On n'était pas encore structuré. Donc bon, pour les financeurs, ils ont quand même besoin d'un peu de gage d'existence et d'efficacité. Et je voulais simplement rajouter qu'on travaille en partenariat étroit avec l'association jumelle de Women Rocking Pamiers, qui s'appelle Zanon Dark Hoy Pomir, qui est donc qui est l'association qui veut dire la même chose, les femmes dans les montagnes, les femmes font bouger la montagne, qui a été montée par les femmes au Tadjikistan pour soutenir le projet là-bas, en fait. Donc on est une double association, quoi, franco-tadjik.
Et comment vous évaluez ce que vous produisez là-bas, justement, par rapport à ces financeurs? Vous savez qui vous allez former quand vous y allez?
Alors la première année, en fait, on est parti avec 5 jeunes femmes sur une formation de 21 jours. La deuxième année, donc ça c'était en 2016. En 2017, donc l'été à chaque fois, on est parti faire une formation d'approfondissement pour ces 5 mêmes jeunes femmes. Et à côté de ça, on est parti avec une vingtaine de femmes sur un projet en partenariat avec Pantera, qui est une association qui protège les grands félins et qui nous a demandé d'intervenir pour initier des futures femmes rangers à la montagne.
C'est excellent.
Ouais, c'était sympa, ça. C'était très intéressant. Et là, c'était vraiment un public de femmes qui vivent dans des vallées isolées et qui, pour certaines, qui avaient déjà connu la montagne parce que leur famille font les bergers ou parce qu'il faut aller chercher du bois. Et il y en avait aussi qui n'étaient jamais allées dans la montagne, qui est pourtant à 20 km à pied de chez elles, quoi, un jour ou deux de marche. Et parce que il n'y avait pas une utilité particulière. Donc là, voilà, la montagne comme loisir n'est pas vraiment le cœur de... Enfin, ils ont d'autres choses à faire, on va dire. Et du coup, en 2018, On est revenu pour faire pour finaliser la formation des 5 femmes avec qui on avait débuté la formation. Là, sur un projet d'initiation à l'alpinisme. Donc, c'était découverte, en fait, de la marche glaciaire. L'idée étant que, en tant qu'accompagnatrice en montagne, elles ne vont pas être amenées à utiliser piolets, crampons, etc. Mais comme on est sur des altitudes assez élevées, il y a des cols quand même à 4000, 5000, voire plus. Il y a pas mal de petits cols glaciaires, avec des glaciers non crevassés ou faciles, ou même en tant qu'accompagnateur en montagne, il y a besoin de passer. Donc l'idée, c'était de leur donner un petit peu une vigilance sur ces terrains-là.
De toute façon, vu les hauteurs au Tadjikistan, accompagnateur en moyenne montagne, ça rehausse au moins de 2000, non ? Par rapport à la France.
Ouais, accompagnateur en moyenne montagne, c'est pas une question d'altitude. Hein,
c'est justement à partir du moment où il n'y a pas de milieu. Neige. Ah oui.
Ouais, c'est une question de nécessité d'utiliser de l'équipement lié à l'alpinisme.
Donc on peut marcher sur glace sans être équipé, a priori. On ne devrait pas le dire.
On passe vite, quoi.
Ouais, parce que c'était le sens de ma prochaine question. Tu es accompagnatrice en moyenne montagne et tu me parles en même temps de haute altitude. Quelle formation, finalement, tu t'autorises à délivrer?
Alors là, sur la formation alpinisme, ce n'est pas moi qui suis intervenue. On a demandé à une initiatrice alpinisme du club alpin français d'intervenir en binôme avec Christine, qui n'est pas diplômée mais qui a une grande expérience de l'alpinisme. Et du coup, nous, en fait, le cursus, on l'envisage en partie inspiré de la formation du diplôme d'état d'accompagnateur en montagne en France, parce que c'est ce qu'on connaît. On a aussi regardé, on s'est renseigné sur ce qui se faisait à l'étranger, à quoi ressemblent les diplômes d'accompagnateur aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font en Amérique du Sud, etc. Et du coup, en fait, on adapte donc les principes de base d'orientation, navigation, sécurité, gestion de groupe, connaissance de l'environnement. Et à ça, on ajoute en plus une veille particulière sur les problématiques liées à la haute altitude, donc au point de vue santé, secours. Les secours en montagne sont quasiment inexistants au Tadjikistan. Donc, il faut être capable de se débrouiller et de planifier son itinéraire aussi en sachant qu'il ne va pas y avoir un hélico qui va débarquer en un quart d'heure si jamais il y a un souci. Donc, ça demande
l'oxygène aussi,
une vigilance. Alors, l'oxygène aussi, oui, parce qu'on monte pas mal. Donc là, c'est aussi leur apprendre à ce que c'est les étapes d'acclimatation à la haute altitude, pas dépasser certains paliers jour après jour. Apprendre à reconnaître les symptômes du mal aigu des montagnes et savoir prendre des décisions si à un moment donné il y a quelqu'un qui va pas bien ou qui va pas aller bien, autant l'anticiper et faire redescendre cette personne ou voilà, faire ce qu'il y a à faire.
Et tu t'es tout de suite senti habilité à pouvoir délivrer cette formation, Claire ?
Non, je dirais que c'est... Moi, je sortais de formation, en fait, quand je suis partie au Tadjikistan la première fois. Donc, pour ce qui est de la gestion de groupe, des connaissances de base, d'orientation, de navigation, je me sentais quand même compétente.
Ouais, c'était frais.
C'était frais. Après, pour ce qui était plus de l'expérience de la gestion des risques en montagne, en altitude... Là, c'est en fait, on est venu se compléter dans l'équipe avec Christine et Audrey qui avaient plus d'expérience, qui avaient de l'expérience concrètement par rapport à moi, au Tadjikistan et en altitude.
Du coup, ça t'a formé aussi au passage ?
Ouais. Ouais. Et puis, du coup, je continue à me former aussi à côté pour grandir.
Passer le guide, peut-être ?
Non, je pense qu'on n'en est pas là non plus.
Tu disais que tout part en fait autour d'un office de tourisme. Et pourtant, tu as dit aussi à un moment donné, bon, la montagne, c'est pas un objet de loisir concrètement au Tadjikistan. Est-ce qu'il y a une volonté là, tout d'un coup, ou une compréhension que peut-être il y a du tourisme à faire là-dessus ? Une demande peut-être de l'international même à venir gravir les sommets ?
Je dirais que culturellement, c'est pas un objet de loisir pour les Pamiris parce que parce que le Tadjikistan reste un pays qui est pauvre. Le Pamir est isolé, enclavé, et ils survivent essentiellement grâce à des pratiques agro-pastorales. Donc il y a du travail en fait toute l'année pour survivre, quoi, pour faire son pain, quoi. Mais en même temps, le pays s'ouvre et il y a des touristes qui arrivent au Tadjikistan, on va dire, depuis 5-7 ans, allez, un petit, à peu près, quoi, moins de 10 ans, on va dire. Il y a de plus en plus de touristes qui s'intéressent à ce pays-là. Il y a des agences de voyage qui ont commencé à vendre des séjours au Tadjikistan, mais dans la partie ouest, proche de l'Ouzbékistan, du coup, qui combinaient des circuits avec Boukhara, Samarcande. Mais il y avait, jusqu'à il y a 2 ans, hein, il y avait, à ma connaissance, pas d'agence qui proposait des séjours dans le Pamir. Parce que c'est aussi l'accès au Pamir longe la frontière afghane, qui est une zone rouge. Il y a des agences qui ne prenaient pas le risque de s'approcher de ces zones-là, quoi, de peur simplement de l'influence de l'Afghanistan, quoi.
Alors le fait même que Christine édite un topo sur cette zone va l'ouvrir finalement au tourisme.
Je dirais qu'il y a d'autres facteurs concomitants, il n'y a pas juste le livre de Christine, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une volonté du gouvernement de développer le pays. Le pays fait partie des plus pauvres au monde, mais il y a un taux de croissance qui est assez impressionnant en fait sur les dernières années. Et il y a une vraie volonté d'ouvrir, en fait. Les routes sont améliorées. Alors, à la base, pour des questions commerciales, c'est la Chine qui a pas mal réhabilité l'autoroute du Pamir, la M41, pour pouvoir envoyer le
plastique. Passer un maximum de camions.
sur l'ouest. Mais du coup, donc, les routes sont améliorées. Et... pour ce qui est du Pamir, donc ils sont de religion ismaélienne. Donc c'est des Ismaéliens, c'est des musulmans d'un islam modéré. Et l'imam, l'Aga Khan, invite pas mal les gens à s'ouvrir, à apprendre l'anglais, à monter des guest houses, parce que on va dire, il pressente que c'est un pays qui est en plein essor. Il y a plein de magnifiques montagnes non gravies, c'est splendide, et c'est encore très, très sauvage. On passe des semaines en montagne où on ne croise personne, ou juste les bergers, on ne croise pas d'autres randonneurs. Et ça, c'est magnifique.
Au-delà de la rencontre de Christine avec ses femmes pour un objet précis, est-ce qu'il y a, au fond, une idée à former que des femmes ?
Oui. En fait, le projet Women Rocking Pamir, c'est des personnes qui sont rassemblées parce qu'elles avaient un lien avec le Tadjikistan et ou une affection particulière pour la montagne et ou un engagement pour le féminisme, quoi, pour les femmes. Du coup, c'est le cas de Christine, et on s'est rencontrés aussi autour de ce projet-là. Les femmes au Tadjikistan sont pas mal amenées à devoir prendre un rôle de chef de famille, parce que les hommes partent, il y a entre 50 et 70% des hommes qui partent travailler à l'étranger, en Russie notamment, enfin spécifiquement, et donc elles sont laissées un petit peu toutes seules. Ils envoient de l'argent, en général, mais du coup elles sont laissées un petit peu toutes seules avec la famille. Donc il faut assumer, elles aussi se mettent à travailler.
Y compris sur l'agraire, toute la partie agricole, quoi.
Oui, tout à fait, ouais. 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 Et donc il y a des femmes qui montent leurs entreprises, il y a des femmes qui apprennent des langues étrangères, qui étudient. Mais ça reste quand même, on va dire que traditionnellement le rôle de la femme est plutôt cantonné à la sphère domestique. Et quand il y a des programmes d'aide pour le développement qui sont faits, on va amener les femmes sur des travaux de couture ou à travailler.
Le classique, enfin, quoi. À rester dans le domaine qu'on voudrait que les femmes restent, quoi.
Voilà. Enfin, on ne remet pas en cause ces programmes-là, hein, s'ils sont efficaces. Hein, et puis, il y a des femmes qui s'y retrouvent bien. Mais là, quand il y a des jeunes femmes qui ont envie d'aller en montagne et qui ont déjà la capacité de parler anglais et qui savent dire des choses sur leur pays, qui ont déjà eu des connaissances de l'expérience avec des touristes et qui ont envie d'aller en montagne pour les amener, on se dit bah là c'est faut y aller quoi, enfin faut leur proposer ça. Et le fait donc de faire ces formations que pour des femmes, et jusqu'à présent on a fait des formations que données par des femmes, c'est aussi une manière de, en laissant en fait en non mixité pour un certain temps quoi, pour un temps donné, qu'elles puissent prendre confiance en elles, en leur capacité de prise de décision, en leur leadership. Et après, bon, voilà, on va dire que c'est bien. On se dit que pour la première étape de formation, on tient assez fort à ce que ce soit dispensé par des femmes, les formations, pour qu'elles voient qu'en fait le rôle de leader peut être tenu par une femme. Et après, bon, mais pourquoi pas intégrer des hommes
Oh non, mais pourquoi d'ailleurs?
Bah, s'il y a des hommes qui sont motivés pour donner des formations et qui sont disponibles à ce moment-là, c'est une question de compétence quoi, et de disponibilité et de volonté d'engagement.
Ouais, vous ne fermez pas cette porte-là, mais en même temps, c'est vrai que c'est beau et profond de montrer que c'est aussi des femmes qui forment et que donc justement, il n'y a de nouveau pas cette hiérarchie assez compliquée.
Bah, en fait, c'est ce qu'on voit, c'est que si on est entre nous sur ces formations, bah, de fait, on fait tout, quoi, la question ne se pose pas. À partir du moment où il va y avoir un homme, facilement, il va y avoir certaines tâches qui vont être déléguées aux femmes et d'autres aux hommes. Et ça, c'est tout à fait... du coup, on a envie d'un petit peu...
Même sans qu'on le fasse exprès.
Ouais, bah, c'est ça, ouais.
Ouais.
Donc on a envie de proposer autre chose.
Et puis ça libère peut-être la parole aussi. Est-ce que vous avez pu profiter comme ça, rentrer très très vite dans la vie, j'allais dire privée les unes des autres?
Oui, bah très très vite.
Plus
je
vite,
sais
sans
pas,
doute,
mais,
que s'il y avait
mais oui, c'est sûr qu'on va sur des. En fait, le fait de travailler avec des femmes et avec des jeunes femmes dans ce pays où la natalité n'est pas vraiment régulée, où c'est aussi. Enfin, les femmes se marient jeunes.
C'est un peu subi, quoi.
Bah, en tout cas, c'est culturel. Je sais pas dans quelle mesure c'est subi ou pas, mais en tout cas, c'est socialement. Il faut se marier jeune et assez rapidement avoir un enfant et des enfants. Et du coup, nous, on s'est retrouvés aussi devant cette difficulté, entre guillemets, où on a commencé à former des femmes. On avait donc pensé le cursus sur 3 ans. Et donc, il y en a 2 d'entre elles qui, là, ont eu des bébés, qui, du coup, doivent mettre en suspens leur activité. Donc, nous, on réfléchit un petit peu à comment intégrer ça, en fait, à notre démarche. Le fait que, c'est bien qu'elles se marient, qu'elles aient leurs enfants, c'est aussi leur chemin de vie. Donc, pour là, on s'est dit qu'on allait faire la formation en 2 ans, un peu plus condensée au lieu de 3. Et on essaie de mettre en place, là, de pouvoir faire participer financièrement à une garde pour les enfants, pour des périodes de l'été, pour que les jeunes mamans puissent quand même aller travailler si elles en ont envie et pas rester bloquées à cause de la garde des enfants.
Et sur le projet Pantera, là, dont tu parlais tout à l'heure, là aussi, il y avait un objectif de ne former que des femmes.
Oui, c'était en fait une volonté de ce programme et on est intervenu ponctuellement quoi, comme prestataire. Parce qu'ils ont déjà des rangers hommes et du coup, il y avait un projet autour des femmes.
Est-ce que ce programme fait des émules là-bas? Genre, vous avez déjà rempli 2 ou 3 cycles de formation pour l'avenir?
Non, là, on est en train de communiquer. Sur les formations qui viennent pour cet été là. Alors il y a de la demande, après je ne sais pas si c'est des émules, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes femmes intéressées. Cette année là, en plus de la session alpinisme, on a mis en place un camp pour les adolescentes. Donc il y a 10 adolescentes de différents quartiers de Khorog, la capitale du Pamir, qui sont parties pendant une semaine en montagne. C'était vraiment... initiation, découverte, faune-flore, géologie, qu'est-ce que c'est qu'un bivouac, un peu des jeux d'orientation, etc. Et du coup, voilà, il y a quand même pas mal de jeunes femmes, d'adolescentes qui viennent, en fait, qui participent à ces camps. Après, notre questionnement, c'est autour de la professionnalisation et le fait qu'elles s'engagent aussi sur au moins 2 ans. Parce que commencer une formation, et nous, c'est quand même beaucoup de temps et de moyens. Et donc, commencer des formations pour qu'après, elles se rendent compte qu'en fait, c'est parce qu'elles aiment, c'est pas notre idée, quoi. Donc, en effet, il y a quand même beaucoup de jeunes femmes qui sont motivées. Et notre idée, donc, c'est vraiment de les emmener dès l'adolescence en montagne pour leur donner une première approche. Et ensuite, de réfléchir le cursus en mettant une semaine de découverte encore, aller faire du bivouac, aller faire de la montagne, et revenir et leur laisser un temps pour qu'elles mûrissent, pour qu'elles réfléchissent à un projet professionnel. Est-ce qu'elles ont vraiment envie de ça? Est-ce qu'elles sont prêtes à apprendre des langues étrangères parce que pour emmener les touristes, il faut quand même parler au minimum anglais. Et voilà, est-ce que c'est vraiment ça dont elles ont envie? Est-ce qu'elles ont le soutien de leur famille? Ça, c'est aussi très important. Pour qu'on puisse vraiment partir sur de bonnes bases et partir avec des jeunes femmes qui sont vraiment motivées. Parce que oui, il y a un effet un peu boule de neige où voilà, et puis il y a eu un petit peu de retentissement médiatique. Là, la première année, quand on est parti, il y a une journaliste d'Al Jazeera qui est venue avec nous. Et donc, elles sont passées voilà, sur Al Jazeera, et donc elles étaient très fières, quoi. Et elles ont bien raison. Et du coup, bon, c'est vrai que ça peut éveiller des envies, mais qui sont pas forcément. Enfin, si c'est pour devenir célèbre, c'est pas vraiment l'objet.
Oui, Al Jazeera viendra pas à tous les coups. Faut
Non, c'est ça.
Ça ressemble un peu à ton parcours, à toi, du coup, ce que vous proposez là maintenant. Faire d'abord des colos pour après
ouais.
peut-être.
Oui, c'est ça. C'est découvrir les choses petit à petit. Et puis, ouais, mûrir un projet. C'est vrai que là, quand on demande des financements extérieurs, qu'on reçoit des dons personnels par le crowdfunding et tout, il y a quand même une responsabilité à faire le maximum que ce soit réfléchi et que ça ait un vrai intérêt pour elle. Après, bon, chacun est libre de changer d'avis aussi, hein, mais voilà, on se dit que.
Du coup, en termes de professionnalisation, c'est quoi le débouché? Vous pouvez pas leur délivrer un diplôme, même si vous étiez vraiment organisme de formation en France, ce diplôme n'aurait pas de sens là-bas, ou peut-être d'ailleurs. Comment ça peut être transformé et quelles assurances elles ont finalement de pouvoir travailler là-dedans, puisque tu disais qu'il n'y a pas de tour opérateur.
Alors si, il y a des tours
Ah,
opérateurs.
quand
Là,
même.
ça, oui. Là,
Locaux, du
depuis
coup.
quelques années, il y a des tours opérateurs locaux. Nous, c'est clair qu'on ne peut pas délivrer de diplôme. On a été tapé à la porte des universités et des institutionnels pour voir justement s'il n'y avait pas une volonté. Pour l'instant, ce n'est pas le cas au niveau local. Donc, nous, on donne juste une formation qui n'est pas diplômante.
Mais du coup, ces tours
Mais
opérateurs la reconnaissent? Hein,
oui, de toute façon, ils partent avec des guides qui n'ont aucun diplôme. Là, quand il y a des hommes qui partent, parce que bon, du coup, il y a des hommes qui partent. C'est simplement parce qu'ils ont grandi dans la vallée et qu'ils connaissent un peu. Donc là, il y a déjà des tours opérateurs locaux qui font travailler ces femmes. Et puis, quand elles se sentent en capacité et que nous aussi, on leur dit, bon, vas-y, tu peux y aller. Là, il y en a qui ont commencé à travailler et qui font leurs étés grâce à ça. Et du coup, enfin, financièrement, c'est quand même intéressant pour la famille. On va dire que le salaire moyen mensuel au Tadjikistan, c'est environ $150. Et là, en 2 mois, il y en a une qui a réussi à faire $1 000. Donc ça fait quasiment une année de salaire grâce à 2 mois de travail en montagne, dans le tourisme.
Ouais, et sans bouger, enfin sans
Sans
bouger,
bouger.
en restant chez elle, quoi, dans son pays.
En restant dans son pays, ouais.
Ouais.
Sans avoir à partir en Russie. Après, bon, ça demande quand même un peu de travail et d'engagement, hein, de faire ça, c'est pas.
Ah bon? C'est pas surveillant de baignade, la formation. Du coup, vous, votre engagement là-dedans, enfin, je veux dire, il est énormément bénévole, il est,
Ouais,
c'est
on
tout est
a.
donné.
Alors, tout est donné. On a bien essayé de se dire qu'on allait essayer d'un moment donné de rémunérer tout ce travail qui est en amont, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. On a compté que là, sur l'année 2018, le travail, parce que du coup, j'ai parlé tout à l'heure d'Audrey, Christine et moi, mais depuis la constitution légale de l'association, il y a d'autres personnes qui nous ont rejointes. Donc il y a Sylvain Cavallini, qui est guide de haute montagne à Autran, Erika Bonnet, qui est accompagnatrice en montagne, Juliette Closiou, qui est anthropologue, qui a fait sa thèse sur les femmes au Tadjikistan, Marjolaine, qui est notre secrétaire aussi. Et on a compté qu'avec tout notre temps bénévole à nous tous, ça faisait à peu près l'équivalent d'un salaire, d'une personne à mi-temps sur un an. Donc c'est quand même pas mal, quoi, sur d'investissement humain entre la préparation des formations. Là, on a fait notre site internet l'année dernière, donc c'était pas mal de boulot aussi pour écrire le site et pour le mettre en page. Et puis trouver les financements, toutes les demandes de
chaque subventions. Année, c'est recommencer ces dossiers-là.
Ouais, là c'est.
Vous n'avez pas été validé par un organisme qui se dit bon, non mais c'est clair, on voit très bien ce qu'ils font. Allez.
On va leur donner de l'argent
tous les ans.
Si en fait avec un solide bâtisseur, c'est un petit peu l'idée, c'est que en fait ils nous ont alloué une bourse pour les 3 prochaines années, enfin pour 3 ans, donc les 2 prochaines. Mais il y a quand même un rapport. Ça prend, Erika a passé une journée à le faire là, l'autre jour. Mmh. Et après, il faut répondre à un budget prévisionnel. Et à chaque fois. Donc, de toute façon, c'est donner des nouvelles des projets à venir et de ce qui s'est passé, donner des chiffres. Donc, c'est. Et puis, le contexte peut être changeant aussi. Donc, ça reste beaucoup de travail.
Oui, quand tu parlais de la frontière avec l'Afghanistan, il n'y a pas de problème sur cette zone-là. Tu disais c'est une zone rouge. Est-ce que c'est réellement, ça craint ?
Disons que le ministère de... C'est quoi ? C'est sur le site du gouvernement, là, info.gouv. Donc ils mettent la frontière donc, du Panj en zone rouge.
Des affaires étrangères.
Voilà. Et nous, quand on y va, donc en fait, on longe cette frontière, mais du côté tadjik, pendant 2 jours de voiture et après on s'en éloigne tout de suite. Donc c'est en zone rouge parce que c'est près de l'Afghanistan, mais on va dire que on y reste peu et que on va dire qu'il y a quand même une grosse rivière qui sépare le Tadjikistan de l'Afghanistan et que il n'y a pas eu d'intrusion talibane au Tadjikistan sur les dernières années, quoi. Ça se passe pas.
Toi, t'as pas eu peur? T'es pas dit, bon, maintenant je sais où c'est, est-ce que j'y vais vraiment ?
Non.
Non, non.
Non. Non, parce que c'est. On reste vigilant à l'information, à ce qui se passe. Et on va dire que culturellement, il n'y a aucun intérêt de la part des talibans à aller dans le Pamir, que ce soit dans le Pamir afghan ou dans le Pamir tadjik, parce que c'est pas la même religion. Qu'ils n'ont aucun point d'ancrage là-bas, il n'y a pas de...
Mmh. Oui, le Pamir ne craint pas non plus d'invasion, finalement.
Il ne le craint pas. Après, ça reste... on reste vigilant à ce qui se passe. On va dire que quand même, entre les Pamiris et le reste du Tadjikistan, il y a eu des tensions, il y a eu une guerre civile il y a quelques années qui s'est tout à fait apaisée, quoi. Donc... Non, on y va sans crainte. Après, on reste alerte. Et voilà.
Comment est-ce que vous êtes perçus, vous, les étrangères, à venir faire ça ici, par la population d'une manière générale ?
Eh bien, je dirais plutôt bien. On est en contact assez rapproché aussi donc avec les tours opérateurs locaux, avec cet office de tourisme qui est à Khorog. Et avec les autorités religieuses locales, qui ont aussi une forte influence sur la politique locale. Et en fait, tous nous soutiennent et on travaille ensemble. Donc on vient vérifier régulièrement que tout va bien.
Conforme.
Ouais, c'est ça. Après, les jeunes femmes sont soutenues par leur famille, sont soutenues par ces autorités religieuses.
Ouais.
C'est ces personnes-là qui ont participé au recrutement des adolescentes qui ont fait le camp cet été. Donc c'est, voilà, on travaille ensemble et pour l'instant ça fonctionne bien. Après, c'est vraiment dû aussi à la très bonne connaissance du pays et de la culture d'Audrey et Christine et à leur en fait, amitié de base avec les jeunes femmes avec qui Christine était partie en montagne que ça a pu se passer, quoi.
On parle le Tadjik là-bas ?
Alors, on parle Tadjik dans tout le reste du Tadjikistan, sauf le Pamir.
Voilà.
Dans le Pamir, bon, les gens parlent Tadjik quand même, c'est ce qui est enseigné à l'école. Mais il y a des langues locales dans chaque vallée, donc le Chougni, le Bartangui, ça reste des dialectes locaux
donc
qui sont parlés par très peu
anglais,
de personnes.
Alors
moi, je parle anglais. et après, le russe est une bonne manière de communiquer aussi avec les gens là-bas dans les villages, parce que donc, le Tadjikistan faisait partie de l'URSS. Et donc, beaucoup des anciens et même des jeunes... parle encore par le russe, quoi. Enfin, c'est plus qu'anglais, en tout cas dans les vallées isolées. Les jeunes, quand même, avec qui on parle, les jeunes femmes, les adolescentes, apprennent l'anglais à l'école. Donc, le parlent quasiment aussi bien que le russe. Ça s'inverse un petit peu, quoi.
Et vous, en France, pour sortir, c'est facile ?
C'est facile. On prend un billet d'avion, un visa sur Internet. On n'oublie pas de prendre son
c'est
permis.
C'est pas un pays liste noire, quoi. Ça
va. Non, c'est facile. Ouais. Hein, c'est,
Toc-toc.
Ouais, il y a des visas qui se délivrent en, des fois, moins de 48 heures pour aller là-bas. Visa de 45 jours. On prend le permis pour le Gorno-Badakhshan, donc la région du Pamir. Et ça se fait très bien. C'est facile d'arriver là-bas. On arrive, en général, via Istanbul. On arrive à Douchanbé. Et après, on monte dans le taxi collectif et là, on part pendant 12 heures sur une route un petit peu abîmée et on arrive à
faire taper le cul.
Ouais.
Ouais, là, on dort 2 jours avant de commencer concrètement. Non
pas toujours. C'était pas le cas cette année. Ça manquait un peu de sommeil, tout ça. Mais...
De quoi vous auriez besoin, Women Rock in Pamiers ?
Alors là, on a besoin de 4000 euros. Je sais pas si tu les aurais.
Moi non, mais à plein d'auditeurs, auditrices.
Ouais, ben là en fait, pour les projets en cours, on relance donc un cursus cet été et on refait une formation pour les adolescentes. Donc pour pouvoir mettre tout ça en place, on a encore besoin d'un petit peu d'argent. Donc autour de 4000 euros, on va lancer un crowdfunding prochainement. Ce sera facile à trouver sur notre site internet www.womenrockinpamirs.org. Et ensuite, on cherche toujours du matériel de montagne qui sera en bon état, des chaussures, des sacs à dos, des doudounes, des Gore-Tex, des duvets, des tentes, des tapis de sol gonflables et pas troués. On peut les réparer s'ils sont trouvés. Donc voilà, on cherche du matériel parce que c'est... Bon, on en a déjà récolté pas mal. Hein. On a eu des dons et on a eu aussi un petit peu de sponsoring de la part de Petzl et Simon. Mais bon, on a encore des besoins.
Et ensuite, on vous les donne où, ces dons ?
Eh bien, vous pouvez nous contacter. On a un formulaire de contact sur le site. Du coup, moi, je peux faire un point de relais ici dans le Diwa. Il y a une collègue qui est sur Grenoble qui peut récolter du matériel aussi. Et après, on a aussi du monde sur Lyon et
Paris. Paris,
non, on n'a personne à Paris, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir un relais là-bas. Et aussi, il y a une autre partie du projet qu'on a mis en place là, depuis l'année dernière. En fait, on a développé des séjours, donc des circuits commerciaux, avec des agences locales en partenariat avec des opérateurs de là-bas, dont une agence que deux des jeunes femmes qui ont fait partie du premier cursus ont monté ensemble, qui s'appelle Oxus. Et donc là, il y a Vercors Escapades et Terres Oubliées qui vendent des séjours donc guidés par ces femmes et par Christine et par moi en co-guidage pour août et septembre à venir. Et l'idée, en fait, c'est de donner du travail à ces femmes là-bas. de pouvoir emmener des stagiaires avec nous pour qu'elles côtoient des randonneurs, des clientèles étrangères. Et on prélève un bénéfice en fait sur le prix de vente des séjours pour pouvoir réinjecter dans la formation. Donc ce dont on a besoin aussi, ce serait des gens qui ont envie de venir découvrir le Pamir avec nous et du coup qui achètent des voyages dont un pourcentage est reversé pour l'association.
Donc là, c'est parti, ils sont disponibles déjà ces jours-là.
Ouais, ces séjours-là, il y en
À aller
a.
chercher sur le site de Vercors Escapade, donc.
Alors, on peut les trouver sur notre site ou sur le site de Vercors Escapades et de Terres Oubliées. Il y en a en août et en septembre à venir.
Alors.
Inscrivez-vous. Voilà, il y a un peu tout différents formats. Il y a une grande traversée du Pamir en 30 jours avec 18 jours de trek pendant tout le mois d'août qui est vendu par Terres Oubliées. Et ensuite, on a un séjour un peu plus aventure avec semi-autonomie sur un itinéraire en partie non reconnu, enfin non repéré, au mois d'août. Et un trek au Pamir à la découverte du lac Sarez qui est vendu par Vercors Escapade. Là, c'est 20 jours, dont 10 jours de trek du 2 au 21 septembre. Donc, toutes ces infos-là sont sur notre site internet.
Eh bien, merci Claire pour cette présentation donc de l'association Women Rock in Pamiers, je le rappelle pour tout le monde. Le site internet, tu l'as dit, on va le retrouver aussi sur la page de cette émission, qui sera disponible sur le nôtre. On suivra aussi cette campagne de crowdfunding, et puis il me reste à te remercier d'être passé, et puis à t'inviter à revenir quand tu veux.
Eh bien, merci beaucoup et à une prochaine.
Hey, the bird.
L'interview du jour.